Frères et sœurs, les amis, dans ce 28e dimanche du temps ordinaire, vous me diriez que vous connaissez parfaitement l'Évangile et vous avez raison de cette guérison des lépreux. Alors je vous invite à tout simplement prendre le chemin vers Jérusalem, comme nous le propose l'évangile de saint Luc de ce dimanche. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Je m'arrête quelques secondes là-dessus, vous le savez, je vous le rappelle très souvent, une bonne dizaine de fois dans l'évangile de saint Luc, ce dernier introduit ses récits par une phrase du même genre, comme il faisait route vers Jérusalem, ou voici que nous montons vers Jérusalem. En fait, Luc précise que Jésus va prendre la résolution dans son cœur de prendre ce chemin de Jérusalem. Mais on le voit bien, saint Luc nous raconte des épisodes qui se passent tantôt dans le nord, tantôt dans le sud. Alors c'est justement la preuve que monter vers Jérusalem, ce n'est pas une indication géographique, mais que tout ce qui va se passer sur le chemin qui amène Jésus à Jérusalem a trait directement au mystère du salut que le Christ apporte à l'humanité. Alors ça, c'est très important à savoir. Ce n'est pas, une démarche touristique, comme si on allait visiter quelque chose, de partir résolument à Jérusalem, mais que la finalité de cette marche vers Jérusalem a trait directement au mystère du salut. Revenons donc à notre texte. Jésus traverse la Samarie et la Galilée. Voici que 10 lépreux viennent à sa rencontre, mais ils restent à distance. Alors, on sait très bien pourquoi ils restent à distance. Ce n'est pas uniquement à cause de la contagion possible, bien sûr, mais tout simplement, le lépreux, à cette époque-là, c'était vraiment une personne totalement impure et qu'il ne fallait absolument pas côtoyer, même si dans d'autres épisodes, le Seigneur a même embrassé les lépreux, mais ce n'est pas le cas ici. Cette fois-ci, dans l'épisode de ces 10 lépreux, c'est de loin que Jésus dit aux malades, « Allez vous montrer au prêtre. » Et se montrer au prêtre, bien, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas le prêtre qui opère le miracle, la guérison, mais tout simplement, aller vers le prêtre, c'était faire reconnaître la guérison de manière officielle, tout simplement. Donc cet ordre que Jésus leur donne est en soi une véritable promesse, hein, une promesse de guérison, bien sûr, mais une promesse de salut. Et nous allons voir comment. Alors, bien sûr, nous pouvons rapprocher cette attitude du Christ de ce qui nous est dit dans la première lecture du prophète Élisée envers Naaman. Élisée non plus ne va pas s'approcher de Naaman. Il va simplement lui dire de loin, « Va te baigner cette fois dans l'eau du Jourdain et tu seras purifié. » Nous voyons bien dans les deux cas que c'est exactement la même approche, la même attitude que le prophète Élisée a envers Naaman et que le Christ a envers les lépreux dont il est question dans ce texte. Voilà donc que nos lépreux se mettent en marche et à noter, c'est pas sans intérêt, que les lépreux sont guéris tout en marchant, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que leur lèpre disparaît en marchant. Et ça nous aide à comprendre que ce qui est important, c'est pas tellement que la lèpre soit reconnue comme guérie officiellement, mais que obéir à l'appel du Seigneur de loin, qui va faire que ces lépreux prennent résolument la route vers ce grand prêtre pour faire reconnaître leur guérison, eh bien, la guérison n'attend pas d'être reconnue, voyez-vous, officiellement. Elle se fait parce que ces lépreux ont une confiance à cette injonction du Christ, allez vous montrer au prêtre, que la guérison de leur lèpre a pu s'opérer. Alors nous voyons bien que ces 10 lépreux sont réunis, bien sûr, par la même maladie qu'est la lèpre, mais une fois qu'ils sont guéris, ils ne sont plus que 9, puisque il y en a un qui retourne et 9 autres non. Et celui qui retourne est un samaritain, c'est-à-dire plus ou moins un hérétique pour l'époque. Alors nous avons 9 soi-disant bons juifs d'un côté et un samaritain. Eh bien, tout exclu qu'il peut être, ou tout hérétique qu'il peut être, ce samaritain sait que la vie, la guérison viennent de Dieu. Voilà pourquoi, tout simplement, il rebousse chemin, il fait demi-tour, et cette fois purifié, bien sûr, il peut s'approcher de Jésus, peut-être même le toucher, voire l'embrasser. Et Luc nous dit dans son texte que ce Samaritain glorifie Dieu à pleine voix et se jette la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Bien, nous voyons bien que ce Samaritain a une attitude ici réservée à Dieu, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il vient de rencontrer le Messie et il le reconnaît, simplement. Il vient de reconnaître que pour rendre véritablement gloire à Dieu, ce n'est plus vers le temple de Jérusalem qu'il faut aller, mais c'est vers la personne même du Christ. Alors nous avons ici un point intéressant, à savoir que faire demi-tour, eh bien c'est précisément, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est précisément l'étymologie même du mot conversion. Et Jésus reconnaît publiquement cette conversion du Samaritain. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous ? C'est à la fois très émouvant, mais très, très, très explicite. Alors, qu'ont fait les 9 autres ? Eh bien, Jésus pose la question, où sont-ils ? Ils n'ont pas fait demi-tour. Et pourtant, ils ont rencontré le même Messie, ils ont rencontré le même Jésus, bien sûr. Et là, nous retrouvons un thème très fréquent, sur lequel je ne vais pas beaucoup insister, parce que nous le savons très très bien, tous, c'est que le salut inauguré par Jésus-Christ, qui est la finalité de cette montée vers Jérusalem, vous le savez, où il vivra sa passion, sa mort et sa résurrection, ce salut, et c'est le premier point de conclusion de cette méditation, c'est que la résurrection, la passion d'abord, la mort et la résurrection du Christ sont offerts à tous les hommes, sans exception. Autrement dit, le salut n'est pas réservé qu'à quelques-uns, mais à tous les hommes. Deuxièmement, rendre grâce à Dieu, c'est notre vocation, Bien sûr, mais la vocation, d'abord dans l'écriture du peuple élu, du peuple juif. Mais nous savons très bien que sont souvent, très souvent même, et encore aujourd'hui, des gens qui sont loin de l'Église, qui ne sont pas pratiquants, de ce qu'on pourrait appeler des étrangers par rapport à nous, ou considérés comme n'étant pas des bons, ce sont eux qui rendent grâce le mieux. Ça, il faut bien s'en souvenir. Et troisièmement, ce sont bien souvent, nous le savons aussi, les pauvres qui ont le cœur le plus ouvert à la rencontre du Seigneur. Donc nous voyons bien que sur ce chemin du salut, qui est le nôtre aussi, parce que nous ne pouvons pas échapper à cette montée vers Jérusalem, tous ici, et qui que nous soyons, parce que le salut nous est réservé, je viens de le rappeler, à tous sans exception. Jésus entraîne tous les hommes qui le veulent bien. Mais combien vont faire demi-tour? Alors, frères et sœurs, je vous invite, s'il en est encore besoin, à bien prendre conscience que faire demi-tour, pour reprendre cette expression, hein, entre guillemets, bien sûr, ce n'est pas une indication géographique ou simplement le désir de prendre un autre chemin que celui de notre propre vie, mais bien au contraire, c'est nous dire que sur le propre chemin de chacune de nos vies et qui est distincte pour tous, eh bien, nous avons parfois à faire demi-tour, mais sur le même chemin, c'est-à-dire demi-tour dans notre propre vie, au cœur de notre propre vie. Parce qu'il ne s'agit pas de faire demi-tour géographiquement. Nous sommes sur notre chemin de vie. Faire demi-tour, à mon sens, c'est éviter de prendre des chemins sans issue. C'est éviter de prendre des chemins éphémères. C'est éviter aussi de prendre des chemins qui n'ont aucun but. Alors, souvenons-nous bien, monter à Jérusalem, c'est accomplir dans l'accueil que nous avons à faire tous du salut de Dieu, c'est accomplir notre propre conversion. Amen.